Imaginons un instant un truc un peu fou, genre une énorme superproduction hollywoodienne tournée en plein cœur de Paris.
Ouais, avec des stars, des explosions, la totale.
Voilà, financée par une plateforme américaine qui brasse des milliards. Mais sur le papier, d'un point de vue purement légal, cette série possède la nationalité japonaise.
Ah bah oui, ça paraît complètement absurde dit comme ça.
C'est clair. Et tout ça dans l'unique but de capter des millions d'euros de subventions publiques venant de plein de pays différents. On pourrait vraiment croire à un scénario de fiction, mais c'est littéralement la réalité de l'industrie audiovisuelle aujourd'hui.
Exactement. En fait, la caméra, le réalisateur, les acteurs sous les projecteurs, bah c'est juste la pointe de l'iceberg. Sous la surface, on a une machinerie qui n'a plus grand-chose à voir avec l'art, quoi.
Ouais, on y trouve plutôt des armées d'avocats fiscalistes, des fichiers Excel interminables et des négociations d'État à État. Et c'est exactement le sujet de notre exploration en profondeur d'aujourd'hui.
Je suis prête, on y va.
L'objectif de notre plongée dans ces sources, c'est vraiment de décoder cette machinerie financière invisible qui se cache derrière les films, les séries, enfin, toute la culture qu'on consomme au quotidien.
Et de comprendre comment l'argent, et plus précisément la fiscalité, façonne ce qui apparaît à l'écran.
C'est ça. Et promis à ceux qui nous écoutent, on va faire ça sans se noyer dans un jargon financier incompréhensible. Alors, pour nous guider, on s'appuie sur deux boussoles. D'abord, un rapport ultra pointu de l'Observatoire européen de l'audiovisuel qui date de mai 2026, qui décortique les incitations fiscales mondiales.
Et de l'autre côté, on a une sorte d'abécédaire exhaustif publié en avril 2026 par Patrice Lomé. Ce texte détaille les mesures fiscales et les alternatives de financement, surtout en se concentrant sur le cas de la France.
Ok, alors décortiquons tout ça. Nos deux sources mentionnent un vieux dicton dès le départ, une règle d'or absolue dans ce milieu, suivez l'argent.
Et ce qui est fascinant ici, c'est que l'application de cette règle, elle a complètement redessiné la géographie du cinéma.
C'est-à-dire?
Bah, aujourd'hui, les scénarios ne sont plus simplement tournés là où l'histoire est censée se dérouler. En fait, c'est l'inverse. Les histoires sont conçues ou littéralement réécrites pour s'adapter aux endroits géographiques qui offrent les meilleurs avantages fiscaux.
Attends. Donc, l'histoire passe au second plan.
Presque, ouais. La délocalisation, c'est plus du tout une exception pour gratter quelques économies. C'est le système de production par défaut. Le lieu dicte si le projet est financièrement faisable ou non.
C'est fou. Mais comment on en est arrivé là? J'aimerais bien qu'on explore un peu la naissance de cette grande illusion géographique. D'où vient cette idée à la base de subventionner des tournages avec des outils fiscaux? Quelqu'un a bien dû commencer.
L'impulsion initiale, en tout cas pour l'histoire moderne de ces mécanismes, ça vient d'Amérique du Nord, du Canada plus précisément.
Ah d'accord, pas d'Hollywood directement.
Non, justement. Au milieu des années 90, le gouvernement canadien s'est dit comment on fait pour attirer les capitaux hollywoodiens chez nous. Ils avaient la proximité géographique, des fuseaux horaires similaires et des paysages qui passaient très bien pour des villes américaines.
Ouais, Toronto, ça ressemble pas mal à New York à l'écran.
Tout à fait. Et donc, en 1995, ils ont instauré des crédits d'impôt liés à la main-d'œuvre locale, puis, en 1997, des crédits pour les services de production. Le but, c'était d'aspirer les tournages américains en faisant chuter la facture finale.
J'imagine que côté américain, voir toute son industrie partir de l'autre côté de la frontière, ça a dû créer une sacrée panique, hein.
Ah, mais une panique totale! Les États américains ont très vite senti le danger. La Louisiane a été une des premières à répliquer en 2002 avec ses propres programmes massifs d'incitation.
Et après, effet domino.
C'est ça, suivi de très près par le Nouveau-Mexique, et la machine était lancée. Une vraie course à l'armement fiscal.
Et l'Europe n'a pas eu d'autre choix que de s'aligner pour survivre, j'imagine.
Irlande, puis des poids lourds comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France.
On parle de combien de dispositifs aujourd'hui?
Bah, on compte plus de 120 incitations de ce type en vigueur dans le monde, dont une trentaine rien qu'en Europe. Et les chiffres du rapport de l'Observatoire européen sont juste dingues. Ces aides représentent maintenant 21% du financement total cumulé des films de fiction européens.
21%, c'est énorme.
C'est la deuxième source de financement, juste derrière les aides publiques directes.
C'est marrant parce que ça me fait penser à... C'est un peu comme choisir sa destination de vacances, non pas pour la beauté de la plage, mais parce que la municipalité locale s'engage à te rembourser 30% de tes frais d'hôtel et de restaurant. Forcément, ça donne envie d'y aller.
C'est une excellente analogie. Et pour pousser le truc encore plus loin, imagine que la ville voisine remarque ça et décide soudainement d'offrir 35% de remboursement.
Ah bah du jour au lendemain, tout le monde change de plage, hein.
Voilà, c'est exactement la dynamique des tournages internationaux.
Mais je veux bien comprendre la logique économique pour les pays. Pourquoi les États acceptent de se priver de recettes fiscales ou même de dépenser de l'argent public pour attirer ces équipes de cinéma? Les sources parlent pas mal d'attirer la valeur ajoutée brute. Mais concrètement, sur le terrain, c'est quoi?
Eh bien, le moteur de l'État ici, c'est plus la politique culturelle, c'est de la politique industrielle. Faut voir un gros tournage comme une petite ville temporaire qui débarque. La valeur ajoutée brute, c'est la richesse créée sur le territoire.
Genre les hôtels, tout ça.
Oui. L'équipe loue des centaines de chambres d'hôtel pendant des mois. Elle engage des traiteurs locaux, des menuisiers pour les décors, des figurants. Et les gouvernements mesurent ça au millimètre en équivalent temps plein. Ça développe aussi des infrastructures durables, comme des studios ou des boîtes d'effets spéciaux.
Donc le calcul, c'est que le retour sur investissement dépasse le coût de la subvention.
C'est l'idée, oui.
D'accord. L'enjeu économique justifie l'effort. Mais comment un État s'y prend concrètement pour, disons-le franchement, acheter un tournage hollywoodien? Parce que selon nos documents, les mécanismes ne sont pas tous pareils. On parle de chèques envoyés par la poste ou de montage comptable plus subtil.
L'arsenal mondial se divise en trois grands outils, selon le rapport. En premier, on a les crédits d'impôt. Le principe est simple, les dépenses réalisées localement par la production donnent droit à une réduction de l'impôt sur les sociétés qu'elles devraient payer dans le pays.
Mais attends, une boîte de prod étrangère qui vient tourner trois mois, elle dégage pas forcément de bénéfices imposables sur ce territoire. Comment tu réduis un impôt qui n'existe pas ?
Et c'est là toute la subtilité. Ces crédits d'impôt, dans ce secteur précis, sont très souvent remboursables.
C'est-à-dire ?
Ça veut dire que si le montant du crédit auquel tu as droit dépasse l'impôt que tu dois réellement, bah l'État s'engage à te verser la différence. En cash.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Donc, pour être bien clair, ça veut dire qu'un État, avec l'argent du contribuable, peut techniquement faire un virement bancaire à une énorme plateforme de streaming américaine juste parce qu'elle est venue tourner chez lui.
Ouais, c'est la réalité brutale du truc. L'aide n'est pas liée à la solvabilité de l'entreprise ou à ses vrais impôts locaux. Le rapport souligne que c'est souvent des véritables quasi-subventions directes.
Incroyable. Et c'est quoi les autres outils?
Le deuxième, c'est les remises en espèces, les cash rebates. Là, c'est direct. C'est un pourcentage de tes dépenses locales qu'on te verse juste après le tournage, une fois les comptes validés.
Ok, encore plus simple.
Et le troisième, c'est les dispositifs pour investisseurs, ce qu'on appelle les tax shelters. Le modèle historique, c'est la Belgique en 2004. L'idée, c'est d'offrir des gros allègements fiscaux à des entreprises locales, genre une banque ou une usine, si elles investissent leurs bénéfices dans un film certifié.
Donc l'État renonce à ses impôts pour forcer le secteur privé à financer le cinéma.
Tout juste.
Mais ça tient la route économiquement face à des géants du streaming qui pèsent des milliards d'euros. Pourquoi subventionner des boîtes déjà ultra riches?
Parce que l'enjeu global est colossal et que la peur de rater le coche l'emporte sur le reste. En 2024, les dépenses pour les contenus originaux européens ont atteint 25,1 milliards d'euros.
Ah ouais, quand même.
Et sur ce gâteau géant, 34% viennent uniquement des plateformes mondiales de streaming. Chaque pays veut sa part. Le rapport cite l'exemple du Royaume-Uni qui a carrément poussé son crédit d'impôt jusqu'à 53% pour certains films indépendants.
53%, donc plus de la moitié des dépenses épongées par le contribuable britannique. C'est sidérant. Ces dispositifs géants, ça attire les superproductions. Ok, mais qu'est-ce qu'il reste pour la culture locale du coup?
L'abécédaire de Patrice Lamet décrit une chute lourde des financements publics locaux, surtout dans les régions. Comment survit le documentaire ou le cinéma d'auteur face à ça?
C'est le grand paradoxe. On a vraiment un système à deux vitesses. Si on prend le cas français détaillé par Lamet, le navire amiral du financement, ça reste le CNC, le Centre National du Cinéma.
Qui fonctionne avec un système de taxes redistribuées au sein de la filière, c'est ça? Oui. Mais même avec le CNC, les budgets sont durs à boucler. C'est pour ça qu'on s'appuie énormément sur des accords bilatéraux de coproduction. Et la complexité juridique de ces traités, elle est redoutable.
Comment un accord entre deux pays peut pallier le manque d'argent, en fait?
En permettant de taper au guichet de subvention des deux pays en même temps. La source donne un détail fou. Grâce à cette ingénierie, une coproduction franco-japonaise peut avoir légalement la nationalité française en France, pour toucher l'aide du CNC.
Et la nationalité japonaise au Japon pour les aides locales.
Pile ça. Le film change de passeport selon le bureau où il dépose son dossier.
De la haute voltige bureaucratique. Mais pour les créateurs plus modestes, qui n'ont pas de coproduction internationale, ils font comment? Les documents parlent d'élus locaux qui coupent les budgets de la culture pour faire des économies. Bon, il ne s'agit pas de juger ces décisions politiques, mais factuellement, l'argent public local se raréfie. C'est le retour du système D ?
Totalement. L'ABCDR explique qu'il se tourne vers le financement participatif, le crowdfunding.
Les cagnottes en ligne, genre Litchi ou Kickstarter ?
Voilà. Il y a aussi une explosion du mécénat avec des philanthropes ou des fonds de dotation. Et puis, bien sûr, le placement de produits et le sponsoring s'intensifient.
Ouais, on voit de plus en plus de marques hyper visibles à l'écran.
Et cela soulève une question importante sur la création elle-même. Les frontières deviennent très poreuses. La ligne entre un mécénat soi-disant désintéressé et une publicité clandestine, elle s'efface. Lomé prévient, le gratuit n'existe pas. Les créateurs doivent parfois intégrer des marques dès l'écriture du scénario pour espérer avoir leur budget.
Donc on modifie le scénario pour placer une voiture et on modifie le lieu de tournage pour décrocher un crédit d'impôt. C'est quand même une vision hyper clinique de l'art, non ?
Très pragmatique en tout cas.
Mais ça m'amène à une autre contradiction majeure dans ces rapports. On distribue de l'argent public pour favoriser des emplois nationaux, on protège sa culture locale contre la concurrence. Juridiquement parlant, c'est pas censé être totalement illégal au regard des règles du commerce mondial.
Ah, c'est un équilibrisme juridique vertigineux. En fait, le secteur culturel navigue dans un conflit idéologique permanent entre deux visions du monde.
Alors, explique-nous ça, parce que ça a l'air d'être un beau casse-tête.
D'un côté, t'as l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Son truc, via le GATT ou la GCS, c'est le libre-échange pur et dur. La règle est claire, un État a interdiction formelle de subventionner ses propres produits au détriment de ceux des autres pays. C'est une distorsion de concurrence.
Donc techniquement, un crédit d'impôt réservé à un tournage national, c'est illégal pour l'OMC.
Théoriquement, oui.
Mais j'imagine qu'il y a un mais, sinon tout le système serait déjà par terre.
Ratifié par plein de pays et l'Union européenne. Et ce texte affirme que les biens culturels ne sont pas des marchandises comme les autres. Ils sanctuarisent le droit des États à subventionner leur culture.
D'accord, mais quand l'OMC et l'UNESCO entrent en collision, qu'est-ce qu'on fait ? Surtout en Europe, où on a des règles de concurrence hyper strictes, j'ai l'impression que c'est une immense partie de poker.
En Europe, ça se joue autour de l'article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'UE. Cet article dit que les aides d'État sont incompatibles avec le marché commun. Sauf que, il prévoit des dérogations.
Ah, la fameuse exception.
Voilà, on autorise les aides pour promouvoir la culture, à condition stricte que ça ne détruise pas trop la concurrence. C'est ce qu'on appelle l'exception culturelle.
C'est le bouclier ultime pour tous les États membres, quoi.
C'est ça, ils s'engouffrent tous dans la brèche. Mais le paradoxe, c'est que cette exception, pensée pour défendre les artistes contre l'industrie, elle est aujourd'hui utilisée comme arme principale pour mener une guerre fiscale acharnée entre voisins.
Et c'est là que réside le danger soulevé par l'Observatoire européen, non ?
Si on relie ça à une vision plus globale, oui. Pour sauver la culture, on a créé un marché mondial de la subvention hyper compétitif et parfois toxique.
Toxique ? Tu veux dire par rapport au risque de fuite des capitaux si on baisse la garde ?
Précisément. L'industrie locale devient trop dépendante de superproductions ultramobiles. Ces productions n'ont aucune attache émotionnelle avec la région. Si ton industrie locale tourne à plein régime grâce à un crédit d'impôt à 30%, que se passe-t-il si le pays voisin passe à 35%?
Les valises sont faites dans la nuit.
Exactement. Et l'économie locale s'effondre. C'est un système sous perfusion permanente.
C'est vertigineux de réaliser à quel point ces montages financiers sont précaires. Et c'est pour ça que ce sujet est si crucial pour ceux qui nous écoutent. Comprendre cette mécanique fiscale, ça change radicalement notre façon de regarder un film.
Complètement.
La prochaine fois qu'un générique de fin défilera avec cette mosaïque interminable de logos de région ou de fonds d'investissement, on saura que rien n'est là par hasard. Ou quand un blockbuster censé se passer à New York a visiblement été tourné dans les rues de Toronto ou à Budapest, la vraie raison sautera aux yeux.
Ce sera plus une question de direction artistique, ce sera juste le résultat d'une équation fiscale savamment calculée pour optimiser le crédit d'impôt.
Le moins de la vision romantique du cinéma, hein ? Et d'ailleurs, ça m'amène à une réflexion finale, un peu provocatrice, mais que ses sources rendent inévitable. On sait que les algorithmes dictent de plus en plus quel type de scénario est financé par les plateformes, et là on vient de voir que la fiscalité dicte où ce scénario est filmé.
Ouais.
Du coup, si les données dictent le fond, et que les impôts dictent la forme, est-ce que l'idée même d'une œuvre d'art authentique ancrée dans un territoire n'est pas vouée à disparaître ? Est-ce qu'on ne se dirige pas vers un cinéma mondial standardisé, un cinéma de l'optimisation fiscale où l'art n'est plus qu'un sous-produit d'une ligne comptable ? Je laisse ceux qui nous écoutent y réfléchir, car finalement, Pour comprendre la magie de l'écran aujourd'hui, il faut avoir le courage de regarder le fichier Excel qui a rendu l'illusion possible.